day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, un mercredi sur deux, les semaines paires sur Radio G. Salut Pablo.
Salut Seb.
Salut Seb. Salut Pablo.
Il est de retour.
Et oui.
Ça est de retour. 2, 3, 4, 5.
Alors ce soir, on parle de séries télé. Pablo, tu as trois séries à nous présenter. Lesquelles?
Ouais, rapidement. Alors Ragnarok, une série Netflix. En thérapie, une série Arte. Et puis la saison 6 de Peaky Blinders.
Seb, je vois des BD sur la table devant toi.
Et oui, tout à fait. Et il m'a fallu du temps pour lire un petit peu toutes ces BD. Vous voyez, il y a une grosse BD là, un gros pavé là quand même. Et puis on verra ça tous ensemble.
Super.
Et puis un peu de cinéma, beaucoup de musique, ouais. Comme d'habitude, tout ce qu'on aime. On est bien sur Radio G.
Alors, on est bien, mais il fait chaud. Hein.
il fait chaud. C'est vrai. Alors, ce week-end, c'est le Hellfest quand même. Hein. Ouais. On rappelle que plusieurs membres de la radio, de Bande Geek Mafia en particulier, vont se rendre sur place. On va essayer de faire des sons, hein, de Pablo et moi, d'enregistrer des interviews, des micro-trottoirs, des ambiances.
Tout à fait.
Pas des concerts en entier, bien sûr.
Non, voilà. Non. Donc, vous pourrez retrouver facilement, de toute façon, sur RTTV, concerts. Et puis, je vous rappelle qu'on a fait deux émissions, donc à un mois d'intervalle, sur le premier week-end Hellfest et le deuxième week-end Hellfest. Donc, vraiment, vous pouvez les retrouver en podcast sur radioG.fr.
Oui les gars, il faut, je suis pas dispo, il faut meubler.
Oui, on va meubler. Non, mais tout à fait, tout à fait.
Alors, la cueillette des fraises en Basse-Normandie.
Alors, la cueillette des fraises en Basse-Normandie, c'est pour lui.
Tu te souviens, c'est Étienne qui faisait ça.
Oui, tout à fait. Alors, très très bien.
Salut Étienne. Salut Étienne. Si jamais tu écoutes cette émission, donne-nous des nouvelles.
Oui, donne-nous des nouvelles. Et puis un petit coucou aussi à notre Dundee National aussi, en même temps, aussi ancien membre de Bande Geek Mafia.
François qui est dans l'Australie, qui est devenu Australien.
Australie, ma pauvre Lucette, voyons.
Incredible. Alors, très important aussi, le retour de Romain. Romain a eu sa mutation à Cholet.
Et oui.
Donc on espère aussi qu'il nous rejoindra l'année prochaine.
D'accord.
Pour faire des chroniques. En espagnol.
En espagnol, si. Et toi, tu l'annonces comme ça, quoi.
Carrément. Bah, j'espère. Oui. Bah, écoute, s'il écoute, j'espère qu'il nous rejoindra. En
tout cas, tout à fait.
La porte
là,
est ouverte.
Tu vas lui mettre une petite pression.
Tout à fait.
Oh non, pas du tout. Là, non. Alors, on démarre l'émission.
Ça chez nous, voyons.
Avec une découverte musicale dont je vous parlerai tout de suite après. Parce que j'ai trouvé ça vraiment génial et drôle.
Ouais.
Ça s'appelle Dombrance. Ça, c'est le nom du groupe. Dombrance.
D'accord.
Et alors, la particularité, c'est que c'est un album qui s'appelle République électronique.
Programme.
Dombrance, vous allez voir, ils font des chansons avec les noms des présidents de la République. Vous êtes bien sur Radio G, 101.5.
La radio qui fait le point.
Alliance avec République Électronique. Je vous en parle rapidement ?
Oui, ouais, vas-y.
Alors voilà.
C'est très ambiance.
Ah, c'est pas mal, hein ?
Ouais. Ouais, c'est presque une musique d'ascenseur.
Alors, Dombrance, c'est un producteur multi...
T'as pas l'électro, toi ?
Si, j'aime bien l'électro, mais là...
J'avais commencé.
Oui, excuse-moi.
Dombrance, c'est un producteur multi-instrumentiste. Voilà, qui s'est beaucoup amusé, je pense, quand il était enfant, avec Pierre et le Loup, parce qu'il y a un peu de ça aussi dans cette histoire, vous allez voir. Il a fait plusieurs EP auparavant, dont un qui a eu beaucoup de succès sur le net, c'est François Fillon.
Ah oui, carrément.
Il y en a eu un autre d'ailleurs, si c'est vrai, sur Christiane Taubira, qui était pas mal du tout. Okay. Et donc ça lui a donné une idée, sur son nouvel album, de s'atteler à restituer sur chaque titre l'ambiance d'une époque et d'une personnalité, hein, donc du sommet de l'État, hein, ouais. Sujet de philo. Mmh. Alors, il y a Macron. Alors le Macron, il est assez crispant. Parce qu'il fait Manu, voilà. Vous, il y a De Gaulle que vous venez d'entendre, qui est plutôt envoûtant, hein, ouais, avec des orgues comme ça, montant, de façon Pink Floyd un peu ouais. Moi, j'aime beaucoup Pompidou, parce que c'est l'unique morceau qui est vraiment chanté. Il y a une chanteuse qui est invitée, hein, Sarah Rebecca, au micro, qui rappelle un petit peu Catherine Taïeb. Vous connaissez cette chanson-là, 5h du mat.
Ah oui.
Alors, pas j'ai des frissons. Hein.
Ouais. Ah non.
Non. Et Catherine Taïeb, c'est je me brosse les dents. Enfin, je sais pas. On l'écoutera. Si
on écoutera.
Et puis, j'aime bien aussi Mitterrand, parce qu'il y a son vocodeur. Et je pense que le tube de l'été, et là, je suis d'accord avec Télérama, le tube de l'été s'intitule Giscard d'Estaing.
Ah, carrément.
Ah, mais vraiment, il est vraiment génial.
Il faudra qu'on l'écoute.
Fallait faire quand même pour faire un tube à
Je trouve l'idée super drôle. Je trouve l'idée vraiment excellente, hein, en cette période électorale. Ouais. Voilà, donc c'est Dombrance, République Électronique. Si vous aimez l'électro, puis si vous avez envie de sourire, c'est plutôt sympa. Voilà.
C'est cool.
Bon, on n'écoute pas souvent de musique électronique dans cette émission, et c'est un tort.
N'oublions pas, nous sommes quand même éclectiques. Il y a quand même un petit peu d'électro de temps en temps.
Shock Radio FM. Alors, rapidement, le cinéma. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas le temps d'aller au cinéma, mais j'ai envie de vous parler de films qui me font envie, en fait, des films que j'ai envie de voir, j'aimerais voir.
Mais ouais, et puis je trouve que c'est intéressant, puisque là, on va approcher de l'été, on va avoir un peu plus de temps, et je pense que les auditeurs...
Alors, soit ils seront toujours à l'affiche, soit vous les trouverez sur des plateformes, soit vous les verrez en VOD.
Il y a beaucoup de choses qui passent, qui sont à l'affiche, et qu'on aimerait aller voir. Et
trois films que j'aimerais voir, c'est Coupé de Michel Hazanavicius, un film de zombies. Ouais. Les Crimes du futur de David Cronenberg.
Ah oui, absolument.
Okay. Top Gun Maverick.
Ah oui, alors là, celui-là, oui, tout à fait.
Pour les plus anciens, il y a un petit côté nostalgique.
Ah oui, en gros.
Alors rapidement, je rentre pas dans les détails parce qu'il fait trop chaud dans le studio.
Non, mais par contre, on devrait aller au cinéma, comme ça on
pour
serait
la clim.
Bien pour la clim.
Voilà. Putain, t'as raison. Comme des vieux.
Comme des vieux.
En fait, on va pas faire ça du tout, on va aller au Hellfest, on va crever de chaud. Mais bon, c'est rien. Mais ça va être génial. Alors, Coupé de Michel Hazanavicius, c'est un film de zombies malin. Voilà. Et une vibrante déclaration d'amour au cinéma de bout de ficelle. C'est un film bricolé comme ça. Je pense qu'Hazanavicius, là, il est en grande forme parce qu'il se fait plaisir, quoi. Il s'en donne à cœur joie. Alors, c'est un film français d'1h51. D'après, en fait, un film japonais. C'est un remake, hein, d'un film japonais qui s'appelle One Cut of the Dead.
Coupe.
Qui avait été traduit en français par Ne coupez pas. Ok. Et donc, Hazanavicius, lui, d'abord, il voulait appeler son film Z, comme zombie. Sauf qu'avec Zemmour, l'invasion en Ukraine des Russes avec leur Z sur leur char, etc., il a changé le titre et il a pris Coupé.
Voilà. D'accord. Et sans oublier que Zorro aussi avait déposé le Z. Donc,
voilà, depuis longtemps.
Depuis un petit moment, quand même.
Oui, alors, ce film a été hors compétition au Festival de Cannes avec Romain Duris dans un de ses meilleurs rôles, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield, Grégory Gardebois et Jean-Pascal Zadi. Alors, c'est un objet filmique, un peu non identifiable, parce que, donc, je vous l'ai dit, c'est le remake d'un obscur film d'horreur japonais de 2017,
d'accord,
fabriqué par une bande d'étudiants japonais. Mmh. Le plaisir, il réside d'abord dans la construction du film, en trois parties, en fait, qui modifie la perception qu'on a de ce qui se passe. Un peu comme, vous savez, dans les Sept Samouraïs, où chacun donne son point de vue, ou Reservoir Dogs
de Quentin Tarantino.
Ouais, bon, là, il y a trois points de vue. Il y a trois points de vue. Alors, la première demi-heure, c'est la plus déconcertante. En fait, on assiste au tournage d'un mauvais film de zombies. Voilà. Donc, humour noir, série Z, massacre de morts vivants, vous voyez.
On massacre du zombie pour le plaisir.
Voilà, et puis tout s'éclaire parce que finalement il y a un retour en arrière Un retour en arrière, parce qu'on découvre que le réalisateur veut retrouver l'estime de sa fille qui est une adolescente, elle est plus cinéphile que lui. Vous voyez, lui, il réalise des films d'entreprise au départ. Mmh. Voilà. Et donc, il accepte de réunir une équipe pour mettre en boîte ce fameux plan séquence là, de zombies. Enfin, et la dernière partie, c'est la plus drôle, parce qu'elle est c'est le making-of du tournage catastrophe.
D'accord.
Donc, vous voyez, c'est en trois parties, et en fait, plus ça va, plus c'est marrant, parce qu'on comprend en fait pourquoi ce film, comment. Enfin voilà. Ouais. Donc c'est un clin d'œil aussi à La Nuit américaine de François Truffaut qui montre comment il tourne ses, oui. qui montrait comment il tournait ses films. D'accord. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est à voir. Voilà. J'ai ouais. très envie de le voir en tout cas.
Ouais, ça a l'air d'être un objet aussi
assez original. C'est un peu quand The Walking Dead rencontre La Nuit américaine.
Ouais. Voilà. Sans oublier qu'apparemment le montage ça fait un peu à la Tarantino aussi. On découvre avec les flashbacks comme ça au fur et à mesure l'histoire. Donc ça pourrait être intéressant.
Alors Les Crimes du futur de David Cronenberg. Donc David Cronenberg, on le connaît pour sa provocation. Ces films un petit peu dérangeants. Alors là, c'est l'histoire d'un duo de performeurs, joué par Léa Seydoux et Viggo Mortensen, et de leur admiratrice, Kristen Stewart. Voilà,
d'accord.
Vous l'avez déjà vu au cinéma. Alors, les films de Cronenberg, ils sont à la fois beaux et horribles et scandaleux.
Ouais.
Et là, c'est exactement ça.
Il aime bien être sur cette frontière, pardon Seb. Hein. C'est vrai que la frontière entre l'esthétique et en même temps parfois le glauque, le dérangeant, l'horrible.
Référence par exemple La Mouche de David Cronenberg, à pas confondre avec La Mèche de David Cronenberg. Et les Crash aussi sur les accidents de voiture. Enfin, il y en avait plein. Existence,
voilà. Magnifique.
Donc là, c'est l'histoire d'une chirurgienne de formation, Léa Seydoux, qui collabore étroitement avec son compagnon qui est artiste d'avant-garde. Viggo Mortensen, voilà. Et en fait, elle télécommande un bistouri, voilà, parce que lui offre son corps en fait lors de performances organisées devant un public. En fait, ouais, c'est un truc un peu.
Oui, c'est du lard.
Voilà, le but c'est d'extraire les nouveaux organes qui se sont mystérieusement développés à l'intérieur du personnage. Vous voyez l'ambiance un peu.
Ils ont vécu de quel côté, Tchernobyl ou...
Ouais, voilà, on est entre polar et science-fiction en fait, mais on est loin d'un blockbuster. Hein. On voit pas la lumière du jour, c'est assez sombre. Voilà. Et ça fait penser au tout premier film de Cronenberg qui était vachement dérangeant, Vidéodrome et tout ça. Voilà. Enfin bref, c'est un film qui divise. Il y a les pour et les contre. Hein. Par exemple, dans Télérama, ils sont très très divisés sur ce film. Hein. Il y en a qui trouvent ça génial et d'autres qui trouvent ça choquant. Voilà, c'est normal.
D'accord.
Hein.
D'accord.
Mais c'est assez transgressif, c'est-à-dire, vous voyez, c'est.
Mais en fait, on touche au corps, quoi.
Voilà, on touche au corps et au voyeurisme.
Ouais, tout à fait. Et je pense que.
Eros et Thanatos.
Ouais. Ben voilà, et puis il explore aussi tout le body art, mais en même temps, je pense qu'il va un peu loin dans son côté un petit peu extrême.
Moi, ce que j'imagine, je l'ai pas vu encore, mais ce qui peut sauver le film, c'est l'ironie de Cronenberg, parce que il est très fort aussi pour ça, pour finalement à un moment donné mettre à distance, parce que.
Parce
qu'il faut pas trop se prendre au sérieux quand même. Et ça, c'est plutôt sympa.
Ouais.
Mais est-ce qu'il se renouvelle vraiment, c'est une autre question. Voilà, le Canadien. Et puis enfin, alors là, on plonge complètement les deux pieds dans le blockbuster, mais on adore ça dans Bande Geek Mafia. C'est Top Gun Maverick.
Ah bah oui, allez.
Avion de chasse, rivalité, tous les ingrédients du Top Gun de 1986 sont là. Mais l'ironie a été larguée au fil de looping, en fait, fait du bien, ce film un peu mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce que c'est le premier Top Gun, on se souvient, c'était hyper macho, c'était l'armée américaine, on est les plus forts, on va gagner la guerre froide, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé, voilà.
Mais là en fait il y a plus d'ironie, hein, là, l'ironie est distillée comme ça au fil de fil. Alors bien sûr il y a les loopings, c'est-à-dire il y a les poursuites. Hein,
les avions, incroyable.
Voilà. Mais il y a plus de... Parce qu'on est quand même 36 ans après le film de Tony Scott. Bien sûr il y a toujours le grand Tom Cruise qui renfile son blouson d'aviateur et qui le propulse 36 ans plus tard, au firmament, c'est magnifique.
Et qui chevauche sa moto, toujours.
Toujours. Par contre, il a changé d'avion, c'est plus un F-14, c'est un F-18.
Et il a changé la moto aussi, hein. c'est plus tout à fait la même. Hein,
ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Enfin, voilà, donc, alors c'est quoi Top Gun pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est l'histoire d'une tête brûlée, indocile, un pilote surdoué qui est rappelé à l'ordre. Et là, on l'appelle pour former une nouvelle flotte pour une mission, évidemment, dans une mission à haut risque, sinon ce serait pas drôle.
Ce serait pas marrant.
Démanteler une base secrète d'uranium dans un pays jamais nommé pour ne froisser personne. Voilà. Ce que c'est déjà le cas dans le premier d'ailleurs. On ne disait pas que c'était l'URSS, mais monde avait compris. Voilà. Surtout quand on voyait les
avions. Avec une étoile rouge, c'est bizarre.
Enfin bref. Donc on voilà. Si vous aimez les films d'action, Tom Cruise, allez voir Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. Si vous aimez les films un peu étranges et malaisants, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, Les Crimes du Futur de David Cronenberg. Et puis si vous avez envie de vous marrer avec les zombies, Coupé de Serge Azanavicius.
Et moi je rajouterais là par rapport au film aussi en même temps, par rapport à Top Gun, si vous voulez continuer encore l'atmosphère du film, il faut savoir quand même qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Ace Combat, qui passe sur les plateformes PS et Xbox. Ils sont en train de faire un add-on justement avec des missions spéciales, puisqu'on est arrivé à l'épisode 8 de Ace Combat. C'est un jeu qui a 20 ans quoi, à peu près. Ils ont fait un add-on Top Gun Maverick.
Waouh, merci Seb.
Top.
On est bien dans votre Geek Mafia sur Radio G.
Top Gun.
120.5.
La radio qui fait le point.
Et on écoute Giscard d'Estaing. République électronique dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Tout de suite la suite.
La suite en
image. La suite, c'est BD ou c'est série télé?
Oh, série télé.
Vous êtes mis d'accord, les gars?
Ouais. Non, on va faire ça.
Allez.
Série télé,
on continue sur la suite ciné un peu.
Ouais, ça serait.
Tu veux un petit jingle peut-être, Pablo?
Ah, allez, un petit jingle rapide.
On aime ça quand
on
même.
Aime bien.
Surtout qu'on en a des biens.
Ah.
Non, c'est vrai. Pour
carrément.
Pour les séries télé, par exemple.
On en a des très sympas.
C'est vrai? Moi j'aime bien celui-là par exemple.
Parlons plus loin du micro, nous la remettons pas vite fait.
C'est vrai que c'est.
Bon allez, on y va parce que. Au bout d'un moment, il nous énerve. Donc ouais, je vais vous parler de trois séries ce soir.
Ah bon, moi je vous énerve.
Non, d'abord, je vais commencer par Ragnarok. Ragnarok, littéralement Crépuscule des dieux, souvent traduit par Fin du monde, est une série télévisée de fantasy mythique dano-norvégienne de 12 épisodes. Voilà, qui dure 39-48 minutes à peu près. Elle est créée par Adam Price et vous la trouvez depuis janvier 2020 sur Netflix. Je vous donne rapidement le synopsis. La ville fictive norvégienne d'Eda, éternie par la pollution industrielle et le réchauffement climatique, jusqu'à ce qu'un adolescent, Magne, David Starkson, au pouvoir de Thor, commence à combattre ce qui risque de détruire la planète. Son frère, Loritz, Jonas, alors il s'appelle Jonas Strandgren, oula, Gravely, je vais arriver, va s'avérer être Loki, évidemment, le frère de Thor, et l'employé du supermarché, une Norne, c'est-à-dire une divinatrice, une sorte de sorcière qui donne la destinée des gens. Gris, Emma Bones, fait tourner la tête de Magne. Elle lui préfère Fjord, fils du magnat local, que Loritz aurait aimé séduire. Légende scandinave et préoccupations adolescentes s'y entremêlent. Bon, dans Ragnarok, les avis sont, pour Ragnarok en tout cas, dans cette série, les avis sont assez partagés. Une série ado, parfois, enfin, ado guimauve ou héroïque fantasy prometteuse. L'idée de rejouer le combat mythique de la mythologie scandinave viking hein, entre les dieux et les géants est intéressante. Sur fond de dérèglement climatique et de pollution, d'une pollution massive de l'eau, d'histoires amoureuses d'adolescents, bon, beaucoup d'ingrédients qui sont assez intéressants. Pour ceux qui attendraient des combats stylés et puissants, ça peut être un peu décevant. Mais je vous dis, globalement, on passe franchement un bon moment malgré tout. Donc voilà, Ragnarok. Je vous propose aussi, alors,
Deuxième série, totalement différente.
Rien à voir. Alors cette fois, on passe du combat mythique au divan. En thérapie, saison 2. Donc En thérapie est une série télévisée française créée par Eric Toledano et Olivier Nakache, diffusée depuis le 4 février 2021 sur Arte. Et vous la trouvez actuellement sur Arte, donc allez la voir. Bon, je vous résume un petit peu la saison 1. Paris, automne 2015, au lendemain des attentats du 13 novembre, je rappelle, dont on suit actuellement le procès. Le docteur Philippe Dayan, un psychiatre et psychanalyste, reçoit chaque semaine 5 patients pour différentes raisons. Le vendredi soir, il consulte lui-même sa contrôleuse. Les épisodes se succèdent par série de 5 représentant une semaine de rendez-vous. Le lundi, Ariane, une chirurgienne. Le mardi, Adèle Chiban, policier de la BRI. Le mercredi, Camille, adolescente sportive de haut niveau, est victime d'un accident de vélo. Et le jeudi, Léonora et Damien, un couple en crise. Le vendredi, le psychanalyste fait le point sur ses propres doutes avec sa contrôleuse, Esther, amie et veuve de son ancien mentor. Donc voilà pour la première saison. Pour la deuxième saison, je vous en parle maintenant, nous sommes toujours à Paris. Cette fois, 5 ans plus tard, au printemps 2020, au lendemain du confinement. Donc on est directement dans l'actualité. Le docteur Philippe Dayan accueille 4 nouveaux patients. Inès, une avocate quadragénaire et solitaire. Robin, un adolescent en surpoids, victime de harcèlement scolaire. Fils du couple de Léonora et Damien de la saison 1. Lydia, une étudiante, venue partager un sombre secret concernant sa santé. Et Alain, un chef d'entreprise pris dans une tourmente médiatique. La saison développe aussi le quotidien compliqué du psychanalyste, le docteur Dayan, qui est divorcé et attaqué en justice par la famille de l'un de ses anciens patients. Il se tourne vers Claire, une analyste et essayiste de renom, sollicite son soutien pour son procès. Chaque épisode dure 30 minutes, le temps d'une séance de thérapie. On en découvre toujours plus sur la personnalité et l'histoire du patient, ou du thérapeute lui-même. On plonge évidemment dans l'inconscient de chacune et chacun. Et c'est là que la série devient fascinante. Qu'est-ce que l'inconscient ? Un ensemble de pulsions, pensées, souvenirs et désirs cachés à la conscience, qui sont dynamiques et perturbatrices. Des pulsions, souvenirs sont souvent refoulées, comme oubliées, et pourtant présentes, comme des fantômes qui nous hantent constamment dans nos rêves, dans nos actions, hein, pensez aux fameux actes manqués, dans nos paroles, les fameux lapsus révélateurs, ou encore dans nos maladies. On retrouve tous les mécanismes complexes de l'inconscient qui se dissimulent, se protègent ou protègent le moi conscient par des mécanismes de défense, de censure. Par exemple, beaucoup de ces patients débarquent dans le cabinet du thérapeute avec des symptômes de maladie, de mal-être, viennent parler d'une chose et pourtant vont en révéler beaucoup plus d'autres beaucoup plus profondes et cachées, et parfois même révéler des choses qu'ils ne voulaient absolument pas dire. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette
série. Moi, j'ai vu les deux saisons d'En Thérapie, et ouais, c'est vrai que...
T'es d'accord avec ça?
Les deux sont bien, en fait. Elles sont très différentes parce que les patients sont différents.
Oui, absolument.
Et oui, c'est intéressant parce qu'on voit, en fait, l'analyse se faire, et on voit les inconscients qui parlent. Enfin, on entend les inconscients parler.
Mais c'est ça.
C'est très étrange.
Je trouve que le scénario est super bien fait à ce niveau-là.
C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens viennent parler d'un sujet qui les préoccupe et en fait ils parlent d'autre chose. C'est vraiment. Et le docteur Dayan, il est très doué pour,
faire
révéler tout ça.
Ouais.
Révéler tout ça. Il a lui-même des failles, c'est intéressant.
Bien sûr, et lui-même est en crise, lui-même est en doute. Voilà. C'est hyper intéressant.
Troisième série, va
pour la fin. Alors, du coup, j'ai gardé.
Le meilleur pour la fin.
On va dire peut-être le meilleur pour la fin, mais bon, c'est très subjectif. Mais j'arrive à dormir. Peaky Blinders.
Yes. Un rêve.
Alors, Peaky Blinders, c'est une série britannique créée par Stephen Knight, diffusée initialement en 2013 sur la BBC, et puis elle est passée sur Arte, sur France, sur Arte, bien sûr, et bien sûr, aujourd'hui, on la trouve sur Netflix. Saluée par son aspect cinématographique, la complexité de ses personnages et l'interprétation des acteurs, ainsi que son utilisation d'une musique, volontairement anachronique. La série a reçu une majorité de critiques positives. Cette série raconte l'histoire d'une famille, les Shelby, des gitans des Travellers ou Pavies, originaires d'Irlande, installés à Birmingham, une ville du Midlands, au centre de l'Angleterre. Je rappelle, c'est la deuxième ville la plus peuplée après Londres, et plus particulièrement de leur leader, Thomas Shelby, interprété par Cillian Murphy. Cette bande est à la fois évidemment ambitieuse et dangereuse. Thomas Shelby est particulièrement ambitieux et dangereux. C'est le chef de la fratrie. Il pratique le racket, la protection, la contrebande, l'alcool et le tabac, et les paris illégaux. Un vol d'armes automatiques dont ils sont les premiers soupçonnés pousse Winston Churchill à déléguer sur place l'inspecteur du chef Chester Campbell, officier de la police royale irlandaise, qui emporte avec lui certaines méthodes expéditives. Donc l'intrigue commence dans les premières saisons en 1919. Là, nous sommes rendus donc au sortir de la guerre et des tranchées, dont les trois frères sont sortis traumatisés mais vivants. Et là aujourd'hui, dans la saison 6, on est en 1933. Hitler est au pouvoir, les fascistes sont installés, la guerre se prépare, c'est le bordel.
Tout va bien.
Tout va très bien. D'ailleurs, ça va crescendo de toute façon sur l'ensemble des saisons.
Absolument. Et tu vas nous donner ton impression parce que dans la saison 6, là, je vous dis tout de suite.
J'ai pas vu encore la 6.
Pas de divulgachage. Notre héros va s'embarquer pour l'Amérique parce qu'il va se passer quelque chose là-bas. Et évidemment, il est attendu par un dangereux rival qui veut lui faire la peau.
Ah oui, mais le dangereux rival, on l'a déjà vu dans la série, saison. Si je me trompe pas, normalement, ça doit être la 2 et la 3.
Oui, alors toi, t'avais bien aimé la saison, enfin la série, hein, tu vois.
Ah, j'ai adoré l'ambiance.
Alors moi, j'ai jamais accroché.
Ah bah.
C'est marrant, hein. J'ai essayé de regarder. Marrant, ouais. Et en fait, les premiers épisodes de la première saison m'ont pas accroché.
Ouais, disons que sur le premier
épisode. T'aimes bien les films de gangsters.
Ah oui, non, mais
Oui, mais il faut dire que c'est long à se mettre en place aussi en même temps.
Peut-être, ouais.
Tout à fait. C'est ça aussi. Il faut vraiment dépasser les deux premiers épisodes de la saison, hein. Après, ça passe comme
ça. Après, se laisser prendre. Peut-être aussi, moi j'aime beaucoup l'esthétique de l'époque avec ses costumes incroyables.
J'adore ses tenues, moi.
C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, je me dis, mais pourquoi.
C'est votre côté midinette.
Mais pourquoi ne s'habitons pas comme ça, quoi?
Parce qu'il fait trop chaud.
Non, parce que là, en laine,
c'est clair. Le 19e siècle, il n'y avait pas le réchauffement climatique.
C'est ça.
Là, c'est le 20e, hein.
Oui, pardon.
Et puis la musique.
Au début du 20e. Mais c'était il y a 100 ans.
Oui, mais c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
En fait, moi, je crois qu'on est toujours au 20e siècle.
Oui, moi, pareil. Hein, de toute façon, j'ai bloqué. C'est un petit peu normal, là aussi.
Donc voilà, pour résumer, les gars, donc Ragnarok, En Thérapie sur Arte.
Ouais.
Ragnarok sur Netflix, En Thérapie sur Arte. Et bien sûr, Peaky Blinders. Saison 6.
En tout cas, il y a un point commun entre les trois.
Netflix. Oui.
C'est le marteau.
Oh,
joli.
Bien joué.
Et d'ailleurs, pour vraiment faire plaisir à tout le monde, on va écouter Red, Right, End de Nick Cave.
Yes,
impeccable.
Qu'on entend dans Peaky Blinders, mais qu'on entend dans beaucoup de films et de séries, comme Scream par exemple.
Tout à fait.
On est bien dans Bandit Mafia.
Sur Radio G, 101.5.
La radio qui fait loin.
Take a little walk to the edge of town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
C'est le grand Nick Cave avec Red Right Hand.
Wow. Ce qu'il y a de bien aussi, ça fait penser à Peaky Blinders. J'adore le visage de l'acteur principal.
Ah ouais.
Kylian Murphy.
Ouais.
Bah,
il a un visage très particulier.
Très particulier. Ouais. Surtout, ouais, toute l'émotion.
Surtout, il y a un regard de. Ah, regard. Bon, après, voilà. Les acteurs sont fabuleux. Enfin, notamment celui qui joue
le frère Arthur.
Ouais. Seb, est-ce que tu veux un petit jingle?
Allez, vas-y. Allez, tu nous mets quoi ton petit jingle? Ah, je pense.
Un autre. Non, parce que tu voulais plus le panier.
Non, mais bon, ça fait longtemps, je pense.
Oh, brother, he's a dead man.
Je l'ai plus, attends, le panier. Qu'as-tu dans ton panier? Bah non. On va mettre un truc un peu Star Wars.
Yoda's cheese on a Pepsi bottle and Princess Leia on Coke. Cool. But don't you get hooked up.
Magnifique.
Save the ginger of the monkeys and throw away that burger. Because it's the little decisions that count. This is Roger Fogarty and you're listening to Creature Shock Radio FM.
En fait, il parle de Star Wars. Sinon, on a ça.
Magnifique. Je vais le peindre en vert.
Oh!
En bleu, en rouge.
Quoi, vous voulez qu'on censure?
Non.
Bon, allez, on censure.
Mais non, on censure rien sur, sur Bande du Peuple.
Mais non, c'est pas de la censure. Je m'amuse à faire un
medley. Là, tu fais un petit medley, là.
À toi, Seb.
Ok, ok, ok. Alors, on va
qu'as-tu dans ton panier BD ce soir?
Alors, mon panier BD, on va commencer par Le Pavé, hein, qui m'a retenu un petit peu, hein, de Brugéas et Tola, La République du Crâne, aux éditions d'Argo.
On est très dans La République. Hein.
Ouais.
C'est moi.
Ouais. Mourir libre, la corde au cou, plutôt que vivre les fers au poing.
Wow.
Voilà, ça c'est le prologue, disons que c'est ce qui est vendu en quatrième de couverture. Alors, quelle est donc cette histoire? Parce que là, franchement, quand je dis
Père Castor, hein, raconte-nous une histoire.
Oui, tout à fait. Eh bien, La République du Crâne, c'est tout simplement une histoire de pirates.
Ah, c'est ce que j'avais dit.
Ah, génial.
Voilà. Bah ouais.
Toute société civilisée réunit des maîtres et leurs laquais. Les pirates ne sont ni les uns ni les autres. C'est le capitaine Scylla qui commence comme ça, sur le premier chapitre. Donc voilà, nous nous trouvons plongés au cours du XVIIIe siècle, à bord du bateau Neptune, et on va suivre les aventures du capitaine qui va essayer justement, eh bien, de trouver sa liberté sans pour autant se faire attraper par, bien sûr, les hommes du roi. Et en cours de route, il va croiser finalement un bateau qui transporte des esclaves. Mais c'est un petit peu bizarre, ce bateau, parce que les voiles, elles sont toutes déchirées. Il n'y a personne. On monte à bord, il y a une drôle d'odeur qui émane. Et d'un seul coup, ils sont accueillis par une femme complètement nue.
On avait usé toutes nos répliques de film, du coup, on est allé au cinéma.
Et je vous en dirai pas plus, je vous invite à lire cette histoire.
C'est intriguant, là,
c'est super intriguant. Mais c'est carrément génial. Vivre libre, la corde au cou, plutôt que vivre les fers au poing. La République du Crâne, c'est tout simplement les pirates aussi, en même temps, dans leur idéal le plus magnifique.
Donc là, ça se passe au début du 18e siècle, c'est ça?
Ouais, 18e siècle.
L'âge d'or de la piraterie.
L'âge d'or de la piraterie, même vers la fin de l'âge d'or de la piraterie. On est dans les Caraïbes, ouais. Et puis on n'est pas que dans les Caraïbes, on retourne aussi sur la côte africaine aussi, okay. En même temps, pour essayer justement de vivre libre.
Ou mourir. Une petite transition.
Tout à fait.
Réplique de film, du coup, on est allé au cinéma.
Capitaine, vous n'êtes pas le capitaine.
C'était pourri, mais on avait des nouvelles phrases.
Capitaine, vous n'êtes pas le capitaine.
Attends, ouais, c'est un petit clin d'œil.
Ouais, un petit délire.
Mais c'est bref.
Capitaine, c'est très sympa.
Capitaine ou capitaine, ça c'est pas mal. Excellent. Alors, deuxième bande dessinée, totalement différente. Là, cette fois-ci, on se retrouve dans les années 40, comme d'habitude, un petit peu. Hein.
Ah, La Seconde Guerre mondiale.
Yves Lavandier et Carole Morel nous présentent l'institutrice. Première partie, ne fais pas à autrui. Trois petits points.
Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.
Bretagne, juin 1944. Malgré le débarquement en Normandie, l'occupant et les miliciens locaux traquent encore et toujours juifs et résistants. Marie-Noël parviendra-t-elle à protéger ses élèves, tous ses élèves? Un récit au grand cœur et derrière l'aventure historique, un hommage au corps enseignant.
Ça fait du bien.
Hommage au corps enseignant.
Ouais.
Hommage au corps enseignant.
C'est pas souvent.
Donc en clair, il faut.
Ça dépend. José Weissmann, il rend hommage au corps enseignant.
Oui, tout à fait. Et là, on rentre dans le cadre qui est assez intéressant. Bon, donc il y aura deux tomes. Hein, le deuxième tome est en préparation aussi sur l'institutrice. Et franchement, c'est une très très belle histoire qui est extrêmement poignante. Et j'attends avec impatience le deuxième tome pour savoir la suite aussi en même temps. Je vous raconterai pas plus parce que finalement il faut découvrir ces bandes dessinées. Graphiquement, c'est super, c'est magnifique. Historiquement, c'est super aussi. Et puis l'histoire, elle est extrêmement touchante. C'est un mélange entre un sac de billes. Qu'est-ce qu'on a encore?
Joseph Joffo,
oui, justement. Monsieur Batignol aussi, ouais. En même temps.
Je conseille, moi, après la rafle.
Après la BD, rafle, après la aussi rafle, en même temps.
Joseph Weissmann.
Tout à fait. Et donc, on se retrouve avec une histoire voilà, qui est extrêmement touchante et qui est intéressante. Je vous redonne les
oui, deux titres. Oui, les références, c'est bien sûr.
Alors, c'est vrai que sur La République du Crâne, j'ai pas beaucoup vendu hein, quand même. Mais oh, parce
si,
que,
si, si.
Honnêtement, les pirates,
capitaine,
allez voir,
capitaine
au capitaine, allez voir. Donc, La République du Crâne, Brugéas, Touloa, aux éditions d'Argo, hein, c'est un petit pavé quand même, 25€.
Ouais, et c'est vrai que, enfin, je le vois, là, tu l'as dans les mains, le graphisme est super,
ah, les couleurs.
Il y a vraiment, ouais, voilà, le côté sombre, pirate. Ouais.
Bah, pirate, et puis alors surtout ce que j'aime bien aussi en même temps, donc on a une structure qui est très traditionnelle avec les cases, mais on sort de la case aussi en même temps, et ça j'adore quand le dessinateur
sort du cadre
et donc du coup voilà quoi.
Très bien.
Il y a plein d'informations aussi qui arrivent, donc c'est super. Et puis la deuxième qui est un petit peu plus un petit peu plus enfantin dans son trait mais qui est extrêmement intéressante, Yves Lavandier, Carole Morel, l'institutrice, première partie, ne fait pas autrui, trois petits points, aux éditions Albin Michel.
Voilà, Radio G pour rien. 101.5 FM.
Alors tout de suite on va écouter un titre de The Smile. The Smile, c'est le nouveau groupe de Thom Yorke et de Johnny Greenwood de Radiohead.
Yes.
Dans Kick Mafia sur Radio G. 101.5, la radio qui fait le point. vous parle rapidement de The Smile, le nouveau groupe de Thom Yorke et de Johnny Greenwood de Radiohead. Avec le batteur de jam. Bon, pourquoi pas.
De djembé,
je pense qu'ils font des jams, mais c'est
Thom Skinner. Yes. Alors, sublime mélodie, vous entendez ça actuellement.
Ouais, j'espère que vous avez kiffé.
Voix assumée, avec son nouveau groupe, Thom Yorke livre un somptueux album, vraiment. Voilà, c'est l'album que l'on attendait depuis. C'est selon, alors ça, c'est selon les fans. Salut Romain, on est fan. Kid A, OK Computer ou même The Benz. Celui où la confiance placée dans Thom Yorke n'est plus nécessaire pour apprivoiser ses dernières recherches musicales. Voilà, on le suit maintenant. Parce que The Smile, donc, c'est le trio dont je vous parlais avec Johnny Greenwood à la guitare, la seconde force créatrice de Radiohead, et Thom Skinner. C'est une divine surprise, cet album. Voilà. L'annonce du projet, un peu progressif, expérimental, bon, à l'instar des albums de Thom Yorke, ça pouvait nous crisper, ça pouvait nous faire un peu peur. Ça pouvait même nous inquiéter. Hein.
Oui, parce qu'ils vont loin parfois.
Une écoute, là, suivie de plusieurs écoutes, font que le doute est levé. Voilà. En fait, on sent qu'ils sont affranchis des contraintes, les gars de Radiohead. Leur a affranchi l'idée de se renouveler, de faire autre chose, etc. En fait, ils font ce qu'ils savent faire.
Ouais, tout à fait. Ils n'ont plus rien à prouver, quoi, finalement.
Exactement.
Donc, alors, ils s'éclatent.
Les thématiques sont les mêmes que dans Radiohead, c'est-à-dire l'aliénation, l'écrasement de l'individu, par la société, la politique. Mais.
Oui, rappelons que Radiohead ont des textes très politisés,
C'est ça. Et en fait, c'est surtout ici que, comment dire, ça s'harmonise avec une recherche musicale complètement libérée, ce que je disais juste avant. Et on est dans la pop, on est dans le progressif anglais. C'est toujours Nigel Godrich, le producteur qui produit Radiohead, qui est aux manettes. Voilà. Moi, je pense que là, Thom Yorke, il assume enfin le fait d'être un immense chanteur. Voilà. Ouais, et puis absolument. Johnny Greenwood, un mélodiste superbe. Bon, alors après, je ne suis pas hyper objectif.
Non.
Je peux dire un truc aussi, du coup, parce que là, dernièrement, j'ai regardé un documentaire qui est sur Radiohead, qui est sur Arte, et je vous invite vraiment à aller le voir. Il est très court, il dure une petite heure, et très intéressant pour retracer vraiment toute leur carrière et jusqu'à aujourd'hui, et toutes leurs expérimentations, parce que c'est vrai qu'effectivement, ils en sont à combien d'albums? Peut-être une bonne dizaine, je crois, et c'est vrai qu'ils sont partis dans plein de sens, directions différentes.
Ils ont exploré. Dans cet album, il y a différents paysages sonores. Il y a du groove funky dans The Opposite. Il y a du dub élégant dans The Smoke. Il y a du crotrock énervé, de la pop vaporeuse qu'on vient d'écouter. Il y a des morceaux inclassables, évidemment, de l'acoustique. Le magnifique Waving White Flag, ce morceau qu'on adore, moi que j'adore en tout cas, Skirting on the Surface. Et le chant de Yorke s'ouvre comme jamais. Et on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Hein, raison de plus pour écouter The Smile et écouter un peu de beauté. Cultiver la beauté.
Voilà,
Voltaire disait cultivons notre jardin. Donc on va cultiver la beauté et le sourire au présent.
Ah oui, magnifique.
The Smile, tu as le sourire là quand tu en parles.
C'est ça. Merci Télérama.
Non, je le dis, il a fait sa chronique tout en souriant. Non, tout en,
et moi je remercie Télérama parce que là, honnêtement, ils m'ont fait découvrir ce groupe. Ils font des chroniques toujours super. Et c'est génial.
Trop bien. Merci Seb.
Merci.
On avait fait dans cette émission il y a quelques années avec Romain une émission spéciale à Radiohead. Et je crois qu'on l'a gardée. On doit l'avoir dans les. C'était à la sortie, au moment de la sortie du dernier album. Enfin, du. Moonshade Pool.
Ouais. Oh, ça remonte à quelques années quand même.
Ouais. Ah oui.
Dans les archives.
2015, non, peut-être.
Ouais, je pense.
Ouais.
Alors Seb.
Oui.
Tu veux écouter Elton John, mais pourquoi donc?
Ben parce que déjà j'aime bien Sir Elton John, c'est parce que moi j'aime bien, voilà, j'aime bien. Et puis surtout ce que j'ai trouvé intéressant là sur son dernier album, il a donc invité les petits jeunes maintenant qui commencent à avoir quelques
Miley
années,
Cyrus,
par exemple, il leur donne pas leur chance parce qu'ils ont déjà eu leur chance, mais voilà, ça fait un autre style.
Et surtout il fait des reprises.
Et fait des reprises, et là c'est la reprise de Nothing Else
Matters. Metallica qui sera
au Hellfest
le dernier week-end et le dernier le dimanche, quoi.
Le dimanche du deuxième week-end.
C'est ça. Vous êtes bien dans Mangui Mafia.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Morrissey pour cette magnifique reprise.
Et oui.
Metallica.
Nothing else matters.
Miley Cyrus avec donc Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith.
Ouais, excellent. Voilà. Couldn't be much
more from the heart. Alors c'est marrant dans le clip, l'acteur qui joue, on dirait Fred de Omar et Fred. On dirait Fred Testo.
C'est vrai? Mais c'est lui.
Donc du coup ça fait bizarre. Nothing else matters. Excellent titre de Metallica qu'ils ne manqueront pas de jouer le dimanche du deuxième week-end au Hellfest, bien entendu.
Ouais.
Ah, donc c'est pas tout à fait la fin. Si vous voulez, on peut parler un peu de YouTube, de chaîne YouTube, parce qu'on aime ça aussi. Yoda's on a Pepsi bottle and Princess Leia on Coke. But don't you get hooked up. Save the chinchilla monkeys and throw away that burger. Cause it's the little decisions that count. This is Roger Fogarty and you're listening to Creature Shock Radio FM. Et sinon j'ai un truc plus adapté. Ah, vous vous souvenez de ça?
Mais oui, ouais.
Super Mario.
Super Mario, ça non?
Alors ça c'est Super Mario quand on avait...
Gagné,
ouais, c'est ça.
C'était à la fin du parcours.
À la fin du niveau. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, on va parler de chaîne YouTube, ça s'appelle Truelle la vie.
Waouh.
C'est pas plus belle la vie, c'est Truelle la vie. Alors,
on a compris.
Vous allez comprendre pourquoi. Ah bah, attention, je préfère le répéter pour les auditeurs et les auditrices. Alors, l'histoire récente, très peu pour elle. Les civilisations anciennes, en revanche, Linda Gileso en raffole. Voilà. Parce qu'en fait, depuis qu'elle est ado, elle raffole de ses histoires anciennes et donc elle a fait un doctorat en archéologie. Voilà, carrément. Spécialité pratique funéraire. Voilà.
C'est gay.
Mais tu vois, c'est génial.
Oui,
en plus, ça va te plaire.
Oui,
avec une mise au point particulière sur l'archipel japonais.
Ah,
et donc, il aura fallu quelques années pour que la quadragénaire, maintenant professeur d'histoire géo, s'aventure sur YouTube pour partager ses premières amours. Truelle la vie, vous voyez le truc avec l'archéologie, est finalement née en 2021.
Alors, l'Odyssée de l'espace.
Elle aurait pu faire une chaîne d'archéologie généraliste, mais elle a voulu prendre un angle d'attaque original. Voilà. Et elle est fascinée donc par la culture nippone et sa cible, c'est l'Asie orientale, les lointains passés du Japon, de la Chine et de la Corée, étroitement liés, qui garnissent ces capsules foisonnantes de découvertes sur cette partie du globe mal connue en France. Elle avait envie de délivrer un message basé sur des études scientifiques et de caser les mythes qui circulent, notamment sur les questions de peuplement ou de frontières. Voilà. C'est comme ça qu'elle argumente. Elle est sérieuse, elle est passionnée, cette vidéaste. Et c'est un pari réussi, vous irez voir, pour un contenu assez prenant. Alors s'il ne fallait voir qu'une vidéo, ce serait celle sur la naissance des guerriers au Japon, c'est-à-dire les samouraïs, que tout le monde connaît.
Bien sûr.
Mais si on date leur apparition au 11e siècle après Jésus-Christ, ils ne sont pas arrivés par magie. Et Linda Gileso remonte le temps pour raconter l'avènement des combattants sur la péninsule, bien antérieure, et liée à l'immigration coréenne.
Wow.
Car, comme elle aime le dire, il y a toujours eu des brassages de population dans cette région.
Ouais.
Truelle la vie, c'est sur YouTube. Je vous le conseille si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'archéologie, si vous aimez le Japon.
Parfait. Mais j'irai voir. Tu nous as.
Hey, il a le smile.
J'aime le 8 bits. Les informaticiens comprendront.
Oui.
C'est une blague de geek, c'est pas grave.
Après, t'as du 12 bits ou du 24 bits, mais bon.
Mais je préfère le 8 bits. Ah, on était bien dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Merci les gars.
Merci.
Alors, dans 15 jours, ce sera la dernière alors.
Dans 15 jours, la dernière, ouais.
Ben oui.
De quoi on va parler? On fait un best-of de l'année? Qu'est-ce qu'on fait?
Je pense.
Je vous ferai un petit retour du Hellfest?
Ouais.
Bah on nous ferons ça.
Bah oui.
On refera une émission spéciale.
Ouais, spéciale. Là, on peut, un petit retour, quelques anecdotes, et puis surtout, bah voilà.
Quelques marques de bière au passage aussi.
Avec modération.
Avec modération, toujours.
Bien sûr.
Toujours. Et on se quitte avec.
Attention, le Hellfest est très connu pour sa modération.
Ouais,
voilà.
On se quitte avec le grand Johnny Cash qui reprend Nine Inch Nails qui sera au Hellfest. Earth.
Magnifique.
À dans 15 jours, salut.
À dans 15 jours, salut.
Ciao les geeks. I hurt myself today. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real.
needle tears a hole. The old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away.